Bonsoir. Je suis content d'être avec vous pour vous parler de cette réalité difficile à percevoir qu'est la France-Afrique. Et vous ne serez sans doute pas au bout de vos surprises dans cet exposé si vous n'avez pas eu l'occasion déjà de lire certains des ouvrages que j'ai pu publier. Je reviendrai sur ce problème de surprise. En quelques mots, comment en sommes-nous arrivés là? Parce que parfois, certains disent on exagère, on est des radicaux qui voyons du complot. Vous savez, on est un peu comme ce juge Lévy de la Côte d'Azur qui voyait de l'extrême droite et de la mafia sur la Côte d'Azur, moyennant quoi on lui a fait faire une expertise psychiatrique. C'est comme si on vous disait, vous comprenez, jamais la CIA n'a renversé aucun gouvernement, jamais elle n'a eu aucun complot nulle part. Jamais les services français n'ont fait quoi que ce soit de répréhensible. On s'aperçoit quand même avec l'affaire Osares et d'autres que tout ça n'est pas aussi simple. Donc nous sommes une association créée en 1981 à l'initiative de 120 prix Nobel qui disait que les problèmes de la faim dans le monde, les problèmes de l'extrême misère, ne relevaient pas de la charité individuelle, mais de l'action collective. Et l'action collective, qu'est-ce que c'est? Ce sont les décisions politiques, même si ce mot parfois rebute. Et donc, pendant 10 ans, même un peu plus, nous nous sommes battus pour faire en sorte que la générosité collective des Français, l'aide publique au développement, 40 milliards de francs à l'époque et toujours à peu près le même montant, sert vraiment à sortir une partie au moins du milliard d'êtres humains dans l'extrême misère de cette situation sans eau potable, sans de quoi manger tous les jours, etc. Et nous avons travaillé avec les meilleurs experts, nous avons convaincu un à un 70% des députés qui, bras dessus, de toute tendance, sont allés déposer une proposition de loi pour faire en sorte qu'une partie au moins de cet argent sert véritablement à lutter contre l'extrême misère, alors qu'aujourd'hui, moins de 2% sert véritablement à lutter contre la pauvreté. Ce qui est déjà un scandale en soi, tout à fait peu connu. Nous avons montré que l'aide publique au développement actuelle par habitant est d'autant plus importante que le pays est riche, parce qu'en fait, ces pays riches comme le Gabon ou le Congo sont tellement ruinés par l'exploitation néocoloniale qu'il faut quand même un peu d'aide pour les aider à subsister. Et donc c'est seulement parce que ces propositions n'ont jamais été mises à l'ordre du jour malgré un soutien politique inédit qu'on s'est rendu compte progressivement que la corruption n'était marginale mais centrale, qu'il y avait une criminalité économique inouïe dans ces relations franco-africaines. Et puis avec déjà ce que nous avons découvert de la complicité française durant le génocide de Rwanda, la complicité avec les massacres au sud du Soudan, la réhabilitation de Mobutu, on a vu que c'était en même temps une complicité politique tout à fait invraisemblable. Et donc à ce moment-là, après 10 ans, il nous a fallu 10 ans pour commencer à voir précisément ces mécanismes. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident. Ça demande un certain temps de voir ces mécanismes qui sont effectivement cachés, et je vais vous expliquer pourquoi. Ces mécanismes que j'ai appelés la France-Afrique. Donc à ce moment-là, on s'est dit, on ne peut pas continuer à dire qu'il faut aider, coopérer, parce que le premier principe de la médecine, au début du serment d'Hippocrate, c'est d'abord ne pas nuire. Or, nous nous étions aperçus que notre pays menait depuis à l'époque 35 ans et maintenant presque 45 en Afrique une politique d'une nuisance inouïe. C'est ce que j'ai appelé la France-Afrique, et ce qui est déstabilisant, c'est que, en fait, quand on commence à explorer ce qui se passe dans ces faces cachées des relations franco-africaines, on est toujours surpris en pire. C'est profondément déstabilisant. Vous croyez que la vérité se situe entre tel point de saloperie et tel autre, et en fait, vous tombez toujours presque au-delà. Par exemple, j'ai été scandalisé au début quand j'ai appris que la France soutenait une guerre civile meurtrière. Et puis, j'ai découvert, dans tel pays, comme l'Angola par exemple, qu'elle soutenait depuis 15 ans les deux camps de la guerre civile. Et puis ensuite, on a compris que c'était systématique. Alors, évidemment, chaque fois, vous êtes un peu plus déstabilisé. Ceux qui veulent comprendre pourquoi peuvent lire un livre absolument décisif, essentiel, qui s'appelle « Exterminer toutes ces brutes » de Sven Lindqvist, au serpent à plumes, qui explique toutes les origines de ce mépris, de ce racisme, qui permet de faire en Afrique ce qu'on n'imaginerait pas faire un instant en Europe. Sauf que, comme le montre Sven Lindqvist, c'est en Afrique que les promoteurs du génocide de la Shoah et du génocide des Juifs ont également fait leurs premières armes, notamment avec le génocide des Hereros. Donc, nous avons commencé en 1993-94 à explorer cette France-Afrique. Et par rapport aux surprises que vous découvrirez peut-être soit dans cette conférence, soit dans les nombreux ouvrages que nous avons écrits depuis sur la question, je cite en particulier la trilogie complète « La France-Afrique, Noir Silence et Noir Chirac » qui décrit un peu notre découverte progressive de ces mécanismes. Je vous cite une phrase de Walter Benjamin à propos de cet étonnement, une phrase que j'ai lue ce matin dans un numéro assez exceptionnel de la revue Indécence, qui fait le point sur la complicité française dans le génocide au Rwanda, un numéro assez formidable, et l'auteur cite cette phrase de Walter Benjamin en 1940 à propos de cette question d'étonnement devant certains faits. Et il dit « Pareil étonnement n'a pas de place au début d'un savoir, à moins que ce savoir soit de reconnaître comme intenable la conception de l'histoire d'où naît une telle surprise. » En fait, le problème, c'est qu'on nous a enseigné une certaine conception de l'histoire qui ne laisse pas place à tout ça, parce que cette place, cette histoire-là, c'est une histoire qui est une histoire essentiellement occidentale, du point de vue occidental, et qui n'a jamais regardé de près les victimes qui ont été faites par millions et par dizaines de millions de ce fait. Ceux qui veulent également être édifiés peuvent lire, bien entendu, Les fantômes du roi Léopold, qui montre ce qu'a pu faire la Belgique au tournant du siècle dernier, et la France a fait la même chose dans un certain nombre de pays. Donc, qu'est-ce que c'est que la France-Afrique? En 1960, nous croyions tous, ou presque, 1960-62, qu'on allait tourner la page de la colonisation. De Gaulle nous fait voter un référendum accordant l'indépendance à l'Algérie en 1962. 80% des Français votent pour ce référendum et croient qu'on en a fini avec ces rapports inégaux de la colonisation. Or, dans le même moment où De Gaulle, poussé, contraint par l'histoire, va accorder l'indépendance aux pays d'Afrique au sud du Sahara, il charge Jacques Faucard de faire exactement l'inverse. Et c'est cela, Jacques Faucard, son bras droit, chargé des services secrets, chargé du financement au culte du gaullisme, etc., etc. C'est ça le phénomène décisif. Comprenez bien, De Gaulle crée une nouvelle légalité internationale, l'indépendance. Et en même temps, il charge quelqu'un d'organiser le maintien de l'indépendance, la confiscation de l'indépendance. Donc, cette action-là est une action illégale en droit international. Elle ne peut donc se faire que de manière cachée, occulte, inavouable. Et c'est cela tout le problème, tout ce qui va engendrer les maux de ce qu'il faut bien appeler un néocolonialisme. En fait, si vous voulez, la relation franco-africaine, c'est depuis 1962 comme un iceberg. Vous avez 10% d'émergés, d'immaculés, la France meilleure amie de l'Afrique, patrie des droits de l'homme, etc., défenseurs, avocats dans les instances internationales, et vous avez 90% d'immergés qui sont les relations mises en place par Faucard et que j'appelle la France-Afrique, qui impliquent des Français et des Africains, et qui sont en fait l'organisation de la confiscation de l'indépendance à tous les niveaux. Comment? D'abord pourquoi et ensuite comment? Pour quatre raisons. D'une part, le rang de la France à l'ONU avec son cortège d'États clients. Deuxièmement, la confiscation des matières premières stratégiques comme l'uranium, le pétrole, ou juteuses comme le bois, le cacao, etc. Ensuite, le financement parallèle des activités politiques du gaullisme, puis de la plupart des partis de gouvernement. Et puis, un point que j'ai redécouvert un peu plus tard, qui était en fait une sorte de sous-traitance dans la guerre froide. Il fallait préserver ces pays au sein de l'Alliance Atlantique du danger communiste, comme on l'avait fait au Zaïre, ou plutôt au Congo ex-belge, en éliminant Lumumba et en installant Mobutu. Donc, pour ces quatre raisons, De Gaulle demande à Focard d'installer un système proprement néocolonial. Comment fait-on ? Tout d'abord, en installant un certain nombre de chefs d'État qui sont purement et simplement, on pourrait dire, des gouverneurs à la peau noire. Ce sont des gens qui ont la nationalité française, qui sont assez souvent issus des services secrets français comme Sans Vente, Omar Bongo ou d'autres, qui se soignent, qui éduquent leurs enfants en France et qui sont chefs d'État en Afrique. Alors on dit, ce sont des Africains. Sauf que ce sont des Africains qui ont passé depuis le début un pacte avec le diable, si je puis dire, un pacte avec l'ancien colonisateur, et de cela on a d'innombrables traces. Alors en face, il y avait quelques dirigeants légitimes. Il y avait une rébellion indépendantiste extraordinaire au Cameroun, menée par Ruben Niobe, qui a été combattue pendant 14 ans avec des massacres dignes de la guerre du Vietnam qui ont fait entre 100 000 et 400 000 morts. Vous avez eu l'élimination de Sylvanus Olympio, élu par les Togolais, par un carteron de sergent-chef venu de la guerre d'Algérie et d'Indochine, dont l'assassin Eyadema est toujours au pouvoir 40 ans après. Vous avez eu la disparition plus que suspecte de Barthélemy Bouganda, etc. Donc on installe partout ce genre de tyrans et de dictateurs qui ne vont cesser ensuite de se maintenir, j'y reviendrai, par des élections truquées ou autres, uniquement avec l'appoint et la reconnaissance de la France. Leur régime ne tient qu'à ce fil-là. Eh bien, ces gouvernements mis en place ont été aussi chargés, en se servant eux-mêmes abondamment, parfois leur fortune atteint la dette de ce pays, comme c'est le cas de Mobutu, comme c'est le cas probablement des Yadema et de quelques autres, en se servant eux-mêmes de faciliter la continuation de la surexploitation, parce qu'il ne faut pas parler seulement d'exploitation, des richesses comme le bois, le cacao, le pétrole, etc. On a vu notamment dans le cas de l'affaire Elf que ces gens-là étaient tout simplement les salariés d'Elf. Ils touchaient des mensualités ou des pourcentages sur tout ce que faisait Elf. Et dans la mesure où ils étaient salariés d'Elf, ils n'étaient évidemment pas, je dirais, les serviteurs de leur propre pays ou de leur propre peuple. Donc on a mis en place un certain nombre de mécanismes que je n'ai pas le temps de détailler. Simplement, disons que dans cette partie cachée, on remplace l'intervention militaire ouverte souvent par l'intervention de mercenaires, qu'on dit électron libre pour ne pas être impliqué, mais on sait bien qu'un denard, chaque fois qu'il a eu un procès, après avoir assassiné plusieurs chefs de gouvernement, chaque fois denard était soutenu par les principaux responsables des services secrets français qui disaient denard, non, c'est pas un mercenaire, c'est un corsaire de la République, il a toujours servi nos intérêts. Et c'est comme ça dans tous les domaines. On a créé, par exemple, en 1967, de l'aveu même de Loïc Le Floch, la compagnie Elf pour servir de faunée et d'instrument des services secrets français en Afrique. Et effectivement, c'est grâce aux caisses d'Elf qu'on a agressé le Nigeria pour lui piquer son pétrole. Ça a été ce qu'on appelle la guerre du Biafra, avec déjà toute une propagande sur l'humanitaire, alors que la famine était provoquée en grande partie par cette agression. Il y a eu tout un tas d'événements que je raconte dans mes livres, de coups d'État, de renversements, d'assassinats. Le jour même où Amani Diori a voulu vendre son uranium ailleurs qu'en France, il a été débarqué instantanément. Ne parlons pas du règne mercenaire aux Comores, des assassinats dans ce pays, de l'assassinat de Sankara, qui était un dirigeant tout à fait essentiel pour l'espoir de l'Afrique, qui a été renversé par une coalition entre Focard et Kadhafi, qui ont installé Ouagadougou avec Compaoré, une sorte de plaque tournante mafieuse qui ensuite a déstabilisé une partie de l'Afrique de l'Ouest, a soutenu les massacres en Libéria et en Sierra Leone avec Charles Taylor. Je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures de toute cette politique criminelle de ces guerres civiles, la guerre civile en Angola qui a duré 25 ans et où Tarallo pour Elf soutenait le gouvernement tandis que Sirven soutenait la rébellion de Savimbi. Cette guerre pouvait durer indéfiniment. Je veux dire, cette criminalité politique indéfinie, je pourrais vous en parler des heures. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en plein double langage. C'est-à-dire qu'on vous parle aide au développement, mais en fait, on a un pillage inouï des richesses, un détournement, par exemple, de l'argent du pétrole dans des proportions colossales. On a la constitution d'une dette dont les Africains n'ont jamais vu la couleur. Le meilleur moyen d'obtenir la remise de la dette, d'ailleurs, c'est de dire « on va enquêter ». Où est passé l'argent de cette dette? Aussitôt, on vous la remet parce que vraiment, on n'a pas envie de savoir où est passé cet argent. Je vous donne un seul exemple, qui est celui du Congo-Brazzaville. J'ai écrit à ce sujet un livre qui s'appelle « L'envers de la dette ». Vous avez un pays qui est riche en pétrole, beaucoup de pétrole, et ce pétrole est en train, peu à peu, de disparaître. Il est pompé. Une partie... Sassou Nguesso, qui a été rétabli au terme d'une guerre civile terrifiante avec une série de crimes contre l'humanité, était le chouchou de la France-Afrique parce qu'il ne demandait pour son pays que 17% de l'argent du pétrole. Et encore 17% de l'argent du pétrole déclaré, puisque le FLOC avoue qu'il y a une bonne partie de ce pétrole qui était directement envoyé vers le marché noir, si je puis dire, de Rotterdam, du pétrole non déclaré, alimentant un certain nombre de caisses parallèles des réseaux France-Africains. Donc, ce pétrole s'en va, le peuple congolais n'en voit qu'une toute petite partie, et en même temps, comme tout ça ne fait pas assez d'argent, on se met à gager le pétrole futur dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans, avec toute une série de prêts qui passent chacun par 15 paradis fiscaux, où des intermédiaires se servent, ce qui fait que ces prêts montent comme eux en neige et qu'à la fin, la dette du Congo-Brazzaville est égale à trois fois son PIB annuel. Trois ans de PIB pour la dette du Congo-Brazzaville, ce qui fait du Congo-Brazzaville l'un des pays les plus endettés au monde, alors qu'au départ, avec 3 millions d'habitants, il a une richesse pétrolière considérable. Et puis pour finir, on s'aperçoit qu'une partie de cet argent a servi à acheter les armes des deux camps de la guerre civile qui ont détruit ce pays en plusieurs épisodes, 97, 99, etc. Alors vous allez dire, c'est une fâcheuse coïncidence. Sauf que j'ai montré dans ce livre, L'envers de la dette, que c'était le même homme, Jacques Sigolé, bras droit d'André Tarallo, monsieur Afrique Delph, qui depuis Genève, à la fois vendait le pétrole du Congo, gérer en direct la dette du Congo et acheter les armes. Donc on peut difficilement dire que les trois phénomènes sont distincts. Eh bien, c'est un exemple parmi d'innombrables autres de ces scandales de criminalité économique et politique mêlée qu'on va trouver tout au long de l'histoire de la France-Afrique. Encore un exemple de cette criminalité récente qui induit notre campagne dictateur que nous avons commencé au début du mois de mai par rapport à cette dizaine ou de quinzaine de dictateurs encore en place dans la France-Afrique et qui ne tiennent qu'à un fil, celui de l'Élysée. Je vais citer cet exemple qui est celui des élections. En 1990, il y a une poussée démocratique formidable en Afrique, et en Afrique francophone notamment, après la chute du mur de Berlin, puisque tous ces États étaient des États, on peut dire, jacobino-soviétiques, un espèce de mélange des pratiques centralisatrices françaises et de méthodes inspirées par ailleurs. J'y reviendrai. Donc, il y a une poussée démocratique. Il y a des demandes ou des réalisations d'assemblées de conférences nationales souveraines qui sont un petit peu comme des états généraux Au Bénin, la France-Afrique est prise de vitesse, le dictateur est renversé, Mathieu Kérékou, et puis ensuite, dès le Cameroun, en 1991, on trouve la parade. C'est-à-dire que, d'un côté, avec le discours de la Baule et avec notre argent, la France dit, nous allons créer un bureau de la démocratie, pardonnez-moi, et de l'état de droit, et nous allons financer en aide publique au développement les urnes, les bulletins, l'organisation des élections, etc., etc. Et du coup, les gens se mettent à veiller jour et nuit auprès des urnes pour empêcher leur bourrage et puis pouvoir renverser la dictature en place. Et puis de l'autre, dans la capitale, on envoie des spécialistes des réseaux de la France-Afrique, alors notamment les réseaux Pasqua, avec la Corse, ils ont pris quelques habitudes, et puis aussi les réseaux de la mairie de Paris, qui sont tout à fait réputés en matière de fraude électorale, en particulier Jérôme Grandénon, le principal conseiller électoral de Chirac, qu'on retrouve en 1996, organisant ce qu'on appelle la centralisation des résultats, c'est-à-dire que vous avez les gens qui votent à 80% pour renverser le dictateur, on ramène les bordereaux, et à la fin, le dictateur se retrouve avec 52% des voix s'il est modeste, ou 80% s'il est immodeste. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on a transformé des dictatures en dictatures légitimées par un vote, en démocrature, si vous voulez, ce qui est encore pire. Et ça ne se passe pas seulement dans un pays. Ça s'est passé dans 50 élections majeures depuis 1991, que ce soit au Cameroun, au Gabon, à Djibouti, dans la plupart des élections au Congo, en Mauritanie, au Togo, évidemment, on pourrait continuer la liste comme ça. Il y a quand même 4 exceptions intéressantes qui montrent que parfois, contre la volonté de la France-Afrique, des peuples peuvent se libérer. Il y a eu au Niger, enfin il y a eu au Mali quand Moussa Traoré a été renversé par la population. Il y a eu au Niger, après l'installation d'un dictateur par Focar, un ami de Focar, qui s'appelait le général Ibrahim Barré Maïnassara. Il a organisé 3 élections successives frauduleuses. Des officiers lui ont dit « il faut arrêter », il n'est pas parti, il a été renversé. La France a crié à l'interruption du processus démocratique. Elle a coupé sa coopération. Les officiers ont organisé des élections qui ont été les plus incontestées d'Afrique pratiquement depuis 30 ans. Et ils ont même perdu les élections puisque ce n'est pas leur candidat qui a été élu. Ceci sans la coopération française. Il y a eu aussi l'exemple du Sénégal où un régime à la fois ultra corrompu et frauduleux a été renversé par la conjonction civique des téléphones portables et des radios locales, ont téléphoné les résultats sortis des urnes directement aux radios, qu'il ait publié de telle manière à court-circuiter la centralisation des résultats, ce qui fait que plusieurs pays ont supprimé les radios locales ou les téléphones portables. Et puis, il y a eu Madagascar, où la mobilisation de la population pendant 6 mois, jour et nuit, sous la pluie, jeunes et vieux, a fini par chasser le dictateur soutenu par la France d'une manière non violente, absolument incroyable. Vous songez à 400 000 personnes dans un pays très pauvre, dans la principale avenue de la capitale, avec au bout un supermarché où rien n'a été volé pendant 4 mois. Vous imaginez le degré de conscience de la population qui ne voulait pas céder à la moindre provocation. Donc, il y a eu des exemples de résistance. En sens inverse, Mobutu, avant la fin de sa vie, il disait « moi, je veux bien organiser des élections démocratiques à condition que ce soit la France qui les organise ». Il connaissait évidemment d'avance le résultat. Donc, je ne vais pas m'étendre. Tout ça continue aujourd'hui au Congo-Brazzaville, où a eu lieu une série de crimes contre l'humanité, avec de faux mercenaires français, avec... tout un tas de ce que la soldatesque peut produire de pire. Il y a la situation du Tchad aujourd'hui, qui est un pays complètement détruit malgré son pétrole. Il y a la situation du Togo, un régime à la Ceausescu. Je pourrais en citer d'innombrables.